Thierry a introduit le culte avec ces deux versets de Colossiens. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous étiez appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et on a chanté que le roi de paix est venu. Et effectivement, on va parler de ça, de la paix, ce matin. Alors, première... Voilà, c'est le verset qui est introduit. Rendez grâces au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Car Dieu a voulu par lui, donc par Jésus-Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, donc par Jésus, par le sang de sa croix. Donc depuis que dans notre jargon chrétien, nous appelons la chute, c'est-à-dire le moment où, selon le texte biblique, Adam et Ève ont croqué un fruit que Dieu leur avait dit de ne pas prendre. Ils ont été séduits par le séducteur, le menteur, celui qui est, dans l'Apocalypse, il est écrit que c'était le serpent ancien, celui qui ment depuis le commencement, comme disait Jésus. Bon, ils ont eu leur propre responsabilité, on va dire, depuis que les êtres humains se sont détournés et séparés de Dieu, la mission de Dieu, la mission que Dieu lui-même s'est donnée, il y a une chose qu'il faut comprendre, l'Église est en mission, pourquoi ? Parce qu'elle rentre dans une mission qui est celle de Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est lui-même donné une mission. Quand il envoie Jésus, c'est la mission de Dieu. Et nous sommes engagés avec Dieu dans sa mission. Donc, la mission que Dieu s'est donnée, c'est de rétablir le shalom. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot shalom ? Shalom, il renvoie bien sûr à une notion qui englobe la fin de toute inimitié, de toute hostilité, de tout conflit. Ça renvoie aussi à une idée de paix. Une idée de sécurité, une idée de bien-être. Peut-être certains d'entre vous qui sont familiarisés avec le texte biblique ont en tête l'expression « sous sa vigne et son figuier ». Le prophète Michée, par exemple, qui annonce les futurs temps messianiques, c'est-à-dire les futurs temps du salut en Jésus-Christ, utilise cette locution. Il dit « plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre ». Donc il s'agit bien de paix. Chacun, d'ailleurs, habitera en paix, sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler. Et un autre texte, par exemple, il y en a plusieurs. Hein. Dans 1 Rois, chapitre 4, verset 25, « Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier. » Donc voilà donc cette notion. Alors si j'arrive à bien tourner les pages de mes notes, ça va aller. J'espère qu'elles ne se sont pas collées entre-temps. On y arrive. Alors, Dieu œuvre donc à rétablir quoi ? Ce shalom perdu lors de la chute. Et c'est ce qu'exprime ce passage, justement. Le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, car Dieu a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, Jésus, par le sang de sa croix. Et cette paix le caractérise toute l'œuvre du Seigneur. Par exemple, dès maintenant, ceux qui, comme je crois la plupart d'entre nous ce matin, ont cru en l'évangile de Jésus-Christ, ils sont dans une situation de paix avec Dieu. Romains 5, chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu lui-même est désigné comme le Dieu de paix. Jésus est désigné comme le prince de la paix. Jésus a laissé sa paix à ses apôtres. « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Non pas comme le monde. La paix est toujours associée à la grâce dans les salutations des apôtres aux églises. « Que la grâce et la paix soient sur vous, etc. » Et annoncer la paix par Jésus-Christ, c'est synonyme d'annoncer l'évangile du salut de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Donc, l'Église, une communauté de paix. Alors l'Église, le corps de Christ, alors par Église, comme nous sommes protestants, nous n'entendons pas une structure particulière ou une superstructure qui aurait un chef, qui serait le vicaire de Christ. Non, nous entendons les hommes et les femmes qui ont cru en Jésus-Christ depuis la Pentecôte jusqu'au dernier jour avant le retour du Seigneur, dont les péchés ont été pardonnés, qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui constituent maintenant ce que la Bible appelle le corps de Christ, c'est-à-dire l'assemblée de tous ceux qui appartiennent à Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc l'Église, le corps de Christ, est donc constituée de tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ, de tous ceux qui ont la paix avec Dieu. Cette Église, au bénéfice du shalom de Dieu, est appelée à vivre de façon concrète ce shalom. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors ça, c'est un moment particulier de l'Église. C'est un moment béni, c'est un moment idéal. L'Église était en paix. Pourquoi je dis ça? Parce que ça n'a pas souvent été le cas. Ne serait-ce que déjà quand on lit le Nouveau Testament, on voit que dans les Épîtres, à part Philippiens et encore, il y a quelques problèmes. Et puis alors, si on prend toute l'histoire de l'Église, donc... Voilà, ça n'a pas toujours été ainsi, que l'Église soit en paix, comme le montre d'ailleurs quantité d'autres passages du Nouveau Testament, loin de là. Donc, l'Église corps de Christ, l'ensemble. Concrètement, ça se traduit par quoi, l'Église corps de Christ? Empiriquement, par des églises locales. Nous, par exemple, nous sommes une église locale. Nous sommes une expression du corps de Christ, concrète, avec des gens concrets, vous et moi. Ok? Donc, cette Église... elle est appelée, et les églises locales sont appelées à être dans la paix. Selon Jésus lui-même, selon ses propres paroles, ses disciples, ils ont quoi? Ils ont de la saveur lorsqu'ils vivent en paix les uns avec les autres. Il dit, si le sel, alors ça c'est dans Marc, chapitre 9, versets 50 et 51, si le sel perd sa saveur, s'il devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et effectivement, une église dont les membres vivent en paix les uns avec les autres, c'est une église où il fait bon vivre. On retrouve cette notion de sécurité, de bien-être. C'est une église qui a de la saveur, qui a du goût. On retrouve ici cette notion de shalom, justement. Bien-être, sécurité. On est bien dans une église en paix. On s'y sent en sécurité. On sait qu'on n'y sera pas jugé, qu'on y trouvera toujours l'écoute, la bienveillance, la compassion, le secours dont on a besoin. On sait qu'on y sera aimé. Magnifique. C'est pourquoi Jésus et les auteurs du Nouveau Testament à sa suite exhortent les enfants de Dieu à vivre en paix les uns avec les autres. Soyez en paix entre vous, 1 Thessalonicien. Vivez en paix. La diapo 2, s'il te plaît. Oui, non, oui. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Alors, l'unité. Alors, il y a une unité. Là, je parle de l'unité de fait. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est qui est l'unité de fait? C'est l'unité qui est donnée par Dieu. Pourquoi? Parce que, comme dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, nous avons quoi en commun? Le même Père. Le même Sauveur Jésus-Christ. Le même esprit. Et l'unité de l'esprit, qu'est-ce que c'est qui fait que l'unité de l'esprit? Parce que ce Saint-Esprit, il habite dans chacun de ceux qui ont cru. Et donc, en ce sens, nous formons un seul corps. Mais il se peut que cette unité de l'esprit soit fissurée. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, si tu peux mettre la troisième diapo. Voici l'apôtre Paul qui nous exhorte, et au-delà de l'apôtre Paul, c'est Dieu qui nous exhorte. Je vous exhorte donc, ah mince, vous voyez pas là où c'est en rouge? Ça va? Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est-à-dire de l'appel que Dieu a mis sur vos vies et sur vos communautés. Vous supportant les uns les autres avec amour, il ne s'agit pas de se supporter parce qu'on est obligé. Avec amour, ça veut dire l'amour, 1 Corinthiens 13, croit tout, espère tout, pardonne tout, l'amour est patient. Donc avec amour. Vous efforçant de quoi? De conserver. Pourquoi? Parce que cette unité nous a été donnée. Il s'agit de la conserver. De conserver l'unité de l'esprit, l'esprit de Dieu, par le lien de la paix. Alors le lien de la paix. J'intitule ce passage « Quand ça devient compliqué ». Alors, peut-être vous avez remarqué, parce que vous êtes vous-même un être humain, les êtres humains, ce n'est pas des vers de terre, ni des cellules, ni des animaux monocellulaires. Les êtres humains sont complexes. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Hein. Ce n'est pas un problème d'être complexe en soi. Ça devient un problème quand cette complexité complique tout. Et là, ce n'est plus une complexité, c'est une complication. Quand elle complique notamment nos relations et les relations des disciples de Jésus entre eux. Il se trouve que nous sommes tous différents. Par exemple, peut-être vous avez remarqué, je suis quelqu'un de très sérieux, je suis toujours en train de froncer les sourcils, je rigole jamais, j'aime pas ça rigoler, je comprends pas qu'il y ait des gens qui aiment rigoler. Bon, peut-être vous avez remarqué que je suis un peu facétieux, je plaisante, je titille, je chambre, gentiment, histoire de rigoler. Et donc la même phrase, alors c'est du vécu, sous forme de plaisanterie un peu provocatrice, adressée à différentes personnes, collègues, voisins, frères et sœurs de l'Église, a produit une réponse sur le même ton. Et d'ailleurs, en retour, je me fais parfois bien chambrer, ce qui est normal. Bon, on rigole entre nous, ça c'est sympa, ça crée des liens, ça permet justement peut-être après d'avoir des discussions beaucoup plus sérieuses. Et puis voici venu le jour fatidique. J'adresse la même plaisanterie à une certaine personne et cela provoque une réaction inattendue, mais surtout catastrophique. Un tsunami, un tremblement de terre de niveau 9 sur l'échelle de Richter, un impact de météorites aussi puissant que celui qui a provoqué la disparition des dinosaures. Cette personne est choquée, même très choquée par la plaisanterie que je viens de lui adresser. Et puis, me voici, moi, tout penaud. C'est la même vanne que j'ai toujours sortie, il y a toujours eu des bonnes réactions. Et là, non. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi a-t-elle cette fois-ci, cette plaisanterie, provoqué une réaction aussi différente? La réponse est simple, nous sommes tous différents. Et donc, peut-être que là, cette personne, à cause de sa différence, a réagi différemment. Alors, on est différents comment? Par notre tempérament, notre caractère, l'éducation que nous avons reçue, la culture du pays où nous avons grandi, la culture propre à la famille dans laquelle nous avons grandi. Nous avons tous vécu des expériences différentes qui nous ont marqué chacun et chacune de manière diverse. Et pour certaines d'entre elles, ces expériences, elles ont pu être des blessures. Et pour certains d'entre nous, il se peut que ces blessures ne soient pas guéries ou complètement guéries. Ce qui peut expliquer aussi certaines réactions. Donc, et là je me mets du côté de celui qui peut choquer, nous pouvons donc être amenés, ça concerne chacun de nous, si on est honnête, nous pouvons donc tous être amenés à choquer certaines personnes, et notamment un frère ou une sœur de l'Église, même si c'est involontaire. Si c'est volontaire, là, il y a besoin de repentance grave, si c'est volontaire, parce que ça devient de la méchanceté. J'espère qu'on n'est pas méchant. J'espère. Mais disons que c'est souvent, la plupart du temps, c'est involontaire, quoi. Voilà, donc, une remarque, une parole, une attitude, un comportement, un choix, une décision, telle expression d'une opinion, un souhait exprimé aussi, il peut être mal compris, mal reçu, perçu comme choquant ou blessant pour les autres. Ça arrive. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est là que si nous ne réglons pas le problème, il va y avoir des difficultés relationnelles qui vont apparaître. Les personnes choquées risquent d'entretenir une colère froide, de l'amertume. S'ils la laissent s'installer dans leur cœur, cette amertume va s'accroître au fur et à mesure que le temps passe. C'est pas bon. La confiance va être remplacée par la méfiance. Méfiance entre frères et sœurs d'une même église locale. Et donc cette église locale n'est plus vraiment ce lieu, cette communauté où nous sommes censés nous sentir à l'aise et en sécurité. Le plus grave, c'est que le Saint-Esprit lui-même risque d'être attristé et ne plus se sentir à l'aise dans cette église. Ne laissez aucune parole mauvaise franchir vos lèvres. Là, je cite Éphésiens 4. Ne laissez aucune parole mauvaise franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, ils feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc, si nous laissons de telles situations délétères perdurer, le diable, qui est notre adversaire, qui n'est pas venu pour nous faire du bien, Jésus dit, il est venu pour voler, égorger, détruire. Donc il est tel un lion qui cherche qui dévorer, il va trouver une porte ouverte. Si nous ne réglons pas les problèmes, pourquoi faire ? Pour semer discorde et division. Et c'est pour ça que Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, dit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Second traduit, ne donnez pas accès au diable. Est-il possible de donner accès au diable ? Dans l'épître de Jacques, il met en opposition deux sagesses. La sagesse d'en haut, qui est premièrement pure, c'est celle de Dieu. Pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. La sagesse d'en bas, il dit qu'elle est charnelle, donc elle est animée d'un zèle amer. Donc vous voyez, un zèle amer, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt un faiseur de problèmes, on va dire, par ses comportements, par ses paroles. Et elle est charnelle, c'est-à-dire que là, elle est associée à la nature de l'homme non régénéré, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, et il dit qu'elle est diabolique. Pourtant, il parle d'êtres humains. Parce que pourquoi ? Parce que là, si on se met au diapason du diable, on lui ouvre une porte. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, mettez-vous au diapason de Dieu, de Jésus. Voilà. Donc, autre danger, si la personne qui nous a blessés, par exemple, ou qui nous a choqués, ou qui nous a heurtés, on ne le perçoit plus, cette personne, qu'au travers d'un filtre. Un filtre fait de méfiance, de crainte plus ou moins consciente, qui va nous empêcher d'être pleinement à l'aise avec cette personne. Et ce filtre nous empêche aussi de voir toutes ses qualités, et comme on l'a entendu tout à l'heure, de grossir tous ses défauts. Il peut avoir aussi pour conséquence de nous empêcher de discerner tous les dons que Dieu a accordés aux personnes qui nous auraient blessés. Or, le plein exercice des dons de chacun et des dons de ces personnes est censé, normalement, être en bénédiction à l'église locale. Si la méfiance et le rejet de ces personnes se sont installés, ça risque de faire une chose, ça risque d'empêcher ces personnes d'exercer pleinement leurs dons et l'entièreté du service qu'ils pourraient accomplir dans l'église, ce qui peut nuire assez gravement à l'édification de cette église. La Bible nous dit, elle utilise une métaphore, la métaphore du corps. Quand ce corps est bien coordonné, c'est là que l'église à laquelle ce corps est comparé s'édifie et se développe comme elle le doit. Éphésiens 4, verset 16. Donc, si des membres de l'église sont entravés dans l'exercice de leurs dons, quelles que soient les raisons, mais là, à cause de ces raisons de difficultés relationnelles, alors, la coordination entre tous les dons des membres de l'église ne se fait pas. L'église ne devient pas ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Quel dommage. Et surtout, quelle responsabilité. Donc, maintenant, passons à une autre étape. Quand nous obéissons à Dieu, alléluia. Diapo 4. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et si on apprenait à vivre ensemble ? Question. Qui ici croit que Jésus bâtit son Église ? Il n'y en a pas beaucoup. Et les autres, non ? C'est comme dans les âgés. Il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui sont contre, c'est pas ça ? Bon. Examinons le choix par Jésus des 12 apôtres. Est-ce qu'il a pris que des personnes susceptibles d'avoir de grandes affinités entre elles ? Certains, oui, certains étaient frères, ils avaient travaillé ensemble à la pêche, tout ça. Mais il prend un péager ou un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui récolte les impôts pour Rome, un traître à la nation d'Israël, et il y met aussi un zélote. Un zélote qui, avant d'être disciple de Jésus, aurait bien égorgé tous ces traîtres de publicains vendus à Rome. Vous trouvez qu'il y a des affinités là ? Jésus les a choisis. Ça doit nous faire réfléchir. Donc, d'ailleurs, ceux qui ont peut-être vu la série The Chosen, vous avez remarqué que le scénariste et le réalisateur, ils ont bien pris soin de dépeindre les apôtres comme des gens toujours doux, conciliant. Non, hein, il y en a certains, ils ont un sacré caractère. Hein. Oula, faut se défarcir. Hein. Pas, il y en a certains, ils ont un caractère qui n'est pas facile du tout. Voilà. Et d'ailleurs, leurs relations ne sont pas tout le temps harmonieuses. C'est normal. Vous savez pourquoi ? Ce sont des êtres humains comme nous. Des êtres humains. Voilà. Donc, dans les églises locales, eh bien, voilà, c'est pareil. Hein. Certains frères, certaines sœurs peuvent avoir un caractère moins facile que d'autres. C'est ainsi. Il se peut que dans leur manière d'être et de s'exprimer, ils soient rugueux, on va dire. Peu délicats. Parfois un peu trop directs. Comme je disais, alors j'espère que ce n'est pas malveillant, parce que si c'est malveillant, là c'est grave. Mais la plupart du temps, ce n'est pas malveillant, c'est parce qu'ils sont comme ça. Ce n'est pas volontaire. Ils sont comme ça. Voilà. Leur façon d'être, hélas, peut parfois froisser, et c'est un euphémisme, certaines personnes de l'Église. Ils sont comme ça, et vous savez quoi ? Dieu les a choisis, et Dieu les a envoyés, et Dieu les veut. Alors que faire alors ? Certains pourraient dire, ça serait bien qu'ils quittent l'Église, comme ça on restera entre nous, entre gens qui ont les mêmes affinités, qui sont toujours d'accord entre nous, et on pourrait cultiver l'entre-soi, et on serait bien entre nous. On sera tranquille. Mais si Dieu a voulu que ces personnes qui sont parfois rugueuses, fassent précisément partie de cette église locale, alors qu'ils arrivent, qu'ils froissent certains frères, certaines sœurs, si Dieu a la volonté de bénir cette église locale à travers les dons qu'il a accordés à ces personnes rugueuses, qu'est-ce qu'on fait ? On les rejette ou quoi ? Alors quelles doivent être les attitudes des uns et des autres, frères et sœurs ? Il est vital que nous apprenions à nous parler. Les personnes froissées doivent interpeller les personnes rugueuses pour leur expliquer, en évoquant des événements, des exemples précis, de quelle façon ils peuvent les avoir froissées, voire blessées. Quant aux rugueux, entre guillemets, dont les attitudes sont dérangeantes, là aussi c'est un euphémisme parfois, il est primordial qu'ils apprennent à écouter et à accepter d'être repris. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et si on entrait dans un chemin d'humilité ? Ça, c'est la diapo 5. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne vous prenez pas pour des sages. Et tous, et il dit bien tous, nous sommes tous concernés. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi ? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Là, des fois, ça fait mal. Hein, des fois, on se croit si important que ça. On s'imagine être le centre, le nombril du corps de Christ. Tu sais, non, tu n'es pas plus aimé que les autres. Hein. Dieu aime tout le monde de la même façon. L'égalité, elle n'a pas été inventée par la République française, elle a été inventée par Dieu. Au départ, c'est une idée chrétienne. Hein. Des fois, il m'est arrivé de parler à des frères et sœurs qui, eux-mêmes, me parlaient d'autres frères et sœurs de l'Église. J'étais très étonné de leurs propos, vous savez pourquoi ? Ils semblaient tout connaître et tout avoir compris, des émotions, des motivations, des besoins, de la psychologie des personnes dont ils parlaient, parfois même des intentions de ceux dont ils étaient en train de me parler. Je me suis dit, ils sont forts. Vous savez quoi ? Ils se prennent pour Dieu. Vous savez pourquoi ? Qui est omniscient ? Nous ou Dieu ? Pour reprendre l'expression biblique, qui seul est capable de sonder les cœurs et les reins ? Dieu, seulement Dieu. Donc, je fais une proposition. Si nous étions humbles, et si, lorsque nous pensons avoir compris quelque chose de notre frère, de notre sœur, si on disait plutôt, il me semble avoir discerné chez un tel, une telle, que, il y a ceci, qu'il y a cela, en prenant bien soin de remettre ensuite ce que nous avons dit et ce que nous croyons avoir compris de ces personnes entre les mains du Seigneur qui, lui, sait absolument tout sur tout le monde, y compris sur celui qui croit connaître et comprendre les autres. Ça, c'est déjà une attitude d'humilité. Maintenant, je vais poser une question. Ce n'est pas une question rhétorique, j'attends une réponse. Qui est l'être le plus humble dans l'univers ? Vous le savez, qui est l'être le plus homme dans l'univers. Allez-y, allez-y. Samy, j'ai vécu en Haïti, c'est autre chose. Hein. Là, ça aurait fusé, là, tous les deux. Blablabla. Vous êtes endormi ou quoi? Je suis si ennuyeux que ça. Je m'en vais. Vous pouvez vous laisser dormir. Alors, qui c'est qui est l'être le plus homme de l'univers? Jésus. Et Dieu, en gros. Mais Jésus, vous avez raison. Pourquoi? Le début du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens nous montre le chemin parcouru par le Fils de Dieu. Comment dit le prince de paix est venu, le roi de paix est venu. La parole de Dieu faite homme, dans une obéissance absolue au Père. Pourquoi? Dans quel but? Afin que nous ayons la paix avec Dieu par le pardon de nos péchés. C'est le chemin d'humilité le plus grand qui a jamais été parcouru. On est là devant l'humilité absolue. Tu peux mettre quelque chose devant le truc parce qu'ils regardent, ils n'écoutent pas. Mets quelque chose devant le... Là. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Donc, on est en face de l'humilité absolue. Dieu le Fils. Dieu de toute éternité. En qui le Père a tout créé. On parlait de son bras s'étend sur tout l'univers, mais... Attendez, au début du XXe siècle, on croyait qu'il y avait quelques galaxies. Maintenant, on sait qu'il y a des milliards, de milliards de galaxies. De milliards d'amas de galaxies. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. Donc, en qui Jésus, le Père, en qui Jésus a tout créé, tout ce qui existe, tout ce qui vit, se dépouille, selon l'Épître aux Philippiens, chapitre 2 au début, et devient homme, en choisissant de naître dans une famille pauvre, qui habite un village méprisé. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Lui, qui est roi de l'univers, est venu comme serviteur pour servir et donner sa vie pour que les êtres humains pécheurs que nous sommes et qui croiraient en lui aient la vie éternelle. Il s'est donc humilié lui-même en se rendant obéissant au Père jusqu'à la mort de la croix afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et dans cette lettre de Paul, il nous a demandé quoi? D'imiter Jésus dans son humilité. Afin que nous puissions, pour reprendre les mots de cet épître, vivre en accord les uns avec les autres, autrement dit, que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres. L'humilité, donc, il va nous en falloir pour accepter de nous humilier, de reconnaître les sentiments négatifs et les envies qui nous habitent, pour renoncer à notre colère, à notre amertume, à notre méfiance. Il va falloir de l'humilité et du courage aussi pour accepter d'ôter ce filtre négatif au travers duquel nous voyons les personnes qui ont pu nous choquer ou nous blesser. Ce filtre dans lequel nous avons enfermé l'autre, mais dans lequel nous nous sommes nous-mêmes aussi enfermés. Et puis, il faudra de l'honnêteté et de l'humilité si nous avons froissé, choqué, blessé et pour écouter les personnes que nous avons pu heurter et rebuter. Il nous faudra de l'humilité pour reconnaître nos torts et demander pardon. Et accepter de changer afin de contribuer à la paix en évitant à l'avenir de causer du trouble. Dernièrement, j'ai discuté avec une personne parce qu'elle était dans un groupe de chrétiens et elle a balancé une phrase qui était un peu une bombe. Et quand j'étais avec elle, j'ai dit à cette personne, écoute, la façon dont tu as dit les choses, tu ne te rends pas compte que tu as provoqué une réaction là. Alors, cette personne, eh bien, elle n'a rien reconnu du tout. Elle a dit, oui, s'ils avaient été intelligents, ils auraient compris. Je ne me remets surtout pas en question. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. S'ils avaient été intelligents, moi j'étais là, et les personnes à qui elle a parlé, je peux vous dire qu'elles sont très intelligentes. Et voilà, c'est une attitude qui fait que... Non, c'est leur faute, ils ne sont pas intelligents. Voilà. Aïe. Alors... Aïe, mais c'est quoi ça? Aïe. Ben enfin, c'est quoi, c'est qui? Eh bien, c'est moi, tu sais, celui, quand tu pries, que tu appelles Seigneur. Ben alors quoi, t'es devenu sadique ou quoi? Pourquoi tu me fais mal? Ah non, c'est pas mon genre d'être sadique. Par contre, ce qui te fait mal, là, c'est la croix par laquelle je voudrais que tu passes. Voilà. Alors toi, peut-être, tu te plains parce que la croix par laquelle je voudrais que tu passes, elle est métaphorique. Moi, la croix par laquelle je suis passé, elle n'était pas métaphorique. Le bois était réel, bien rugueux. Les clous qui ont transpercé mes poignets, mes chevilles étaient bien réels. La douleur que j'ai ressentie était bien réelle. Les heures de souffrance indicible que j'ai passées pour que toi, tu puisses avoir tes péchés pardonnés, que tu puisses devenir mon enfant, comme la personne à qui tu en veux, qui t'a blessé, que j'aime autant que toi. Ça, c'était réel. Moi, la croix par laquelle je vais te faire passer, tu te plains, mais elle est métaphorique. En plus, tu vois, c'est une croix par laquelle je vais te faire passer qui va t'amener à renoncer. Tu te souviens quand tu as plongé ? Plonger, ça veut dire baptisein. Le plongeon, c'est le baptême. Je plonge, je me baptise. C'était quoi ? C'était un engagement. Tu t'es engagé à me suivre. Et souviens-toi de ce que j'ai dit à mes disciples, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même et qui me suit. Et là, je vais te demander de renoncer à ton amertume, je vais te demander de renoncer à ton orgueil, à ta volonté d'avoir raison, à ta volonté d'avoir le dernier mot. Et si tu te plains de cette mort, n'oublie pas qu'avec moi, la mort n'est jamais la fin. C'est toujours suivi d'une résurrection. Alors tu vas mourir à ça, mais tu vas ressusciter avec un autre regard sur ton frère et ta sœur, qui t'a certainement, hélas, choqué, et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu auras un autre regard, ça c'est la résurrection. Et tu auras aussi une autre façon de relationner avec lui. Et peut-être aussi que tu t'ouvriras au don qu'il pouvait exercer dans l'Église. Voilà. Tu vois ? La croix. Tu veux me suivre ? Eh bien, suis-moi. Mais à un moment donné, il y a des moments où, quand tu me suis, tu renonces à des choses. Ah, conclusion. Le Dieu de paix, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, en faisant la paix par le sang de Jésus, son Fils, le sang de la croix. Il a donné à ses disciples une mission, qui est d'être serviteur de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il leur a donné une mission qui est d'être ouvrier de paix avec lui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. S'adressant aux disciples de Jésus que nous sommes, le Dieu de paix nous dit, soyez en paix entre vous. Lorsque nous obéissons à cette injonction, il est écrit que nous sommes agréables à Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Romains 14, verset 17-18. S'il arrivait que nous refusions d'obéir à Dieu en vue de la paix, il y a un risque. Nous risquerions fort d'être des éléments perturbateurs dans son royaume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. Il parle d'une infection, c'est grave. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Donc, lorsque nous nous trouvons dans une situation de relation abîmée, chacune de nous se trouve devant un choix. Persister dans une attitude orgueilleuse qui conduira à l'entretien de mauvaises relations et la mise en péril du shalom voulu de Dieu, ou bâtir avec Jésus en vue du shalom, en recherchant la paix et la réconciliation. Il s'agit alors de ne pas nous prendre pour des sages, mais plutôt d'agir selon la sagesse de Dieu, qui est la sagesse qui vient d'en haut et qui aime la paix et qui est conciliante. En faisant cela, on ouvre les fenêtres pour chasser l'air vicié de la mésentente et le remplacer par le bon air frais de l'unité retrouvée, fruit du pardon mutuel. Donc je voudrais nous laisser, chacun d'entre nous, nous sommes tous concernés, moi le premier. Et moi, j'ai souvent été cause de troubles, je le reconnais. Et vous avez non seulement le droit, mais le devoir, lorsque ça arrive, de venir me voir et de venir me reprendre. Et si j'ai la tête trop dure, vous avez le droit de me dire qu'il faut que j'arrête d'être orgueilleux. Donc l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Rome, qui connaissait à cette époque-là des dissensions Bon, là, tout à l'heure, j'ai parlé justement de cultures différentes. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens d'origine juive qui avaient été élevés dans le judaïsme et d'autres d'origine païenne qui ne connaissaient rien au judaïsme. Et bon, on passe sur les détails, mais ça crée certaines dissensions. Donc, Paul leur a adressé cette exhortation, mais cette exhortation, Dieu l'adresse aussi à chacun de ses enfants de toute époque, de toute nation, de tout lieu et à chacun de nous ce matin. 29 mars 2026 à midi moins 10. Cette exhortation nous est aussi adressée aujourd'hui, donc, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. La voici. Maestro. La dernière. Cherchons toujours. Alors, il ne dit pas de temps en temps, il ne dit pas quand ça nous plaît, il ne dit pas quand on est bien luné, il ne dit pas quand ça nous semble agréable, il dit cherchons toujours, toujours ceux qui contribuent à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi.